السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بليغة، لم يخلقهم ليتعزز من ذلة ولا لحاجته إليهم، بل أوجدهم من العدم لحكمة عظيمة. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, nous a tous fait exister à partir du néant. Il nous a créés et nous a accordé tout ce dont nous avons besoin pour exister. Mais cela, il ne l'a pas fait car il avait besoin de nous. Il ne l'a pas fait pour se renforcer par nous. Il l'a fait pour une grande sagesse et un noble but. Il nous dit dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُوا. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Mais c'est plutôt Allah le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Ainsi, avec ce verset, nous avons la réponse à la grande question. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés ? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Et je n'ai créé les djinns et les âmes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. أي إلا لوحدون. C'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient. Et ce, d'un culte sincère. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit dans le tafsir de ce verset, « Ay, innama khalaqahum, ou khalaqtuhum li'amurahum. » Allah nous a créés pour nous ordonner bi'ibadati, son adoration. Non, car il avait besoin de nous. Ainsi, Allah a fait le premier, c'est-à-dire qu'il nous a créés, pour qu'on fasse le second, c'est-à-dire l'adorer. Et si l'adoration est la sagesse de la création, on se doit tous, chers serviteurs d'Allah, d'étudier ce qu'est l'adoration. Quelle est sa définition, sa valeur? Quelles sont ses différentes formes? Comment la reconnaître? Afin de pouvoir l'attribuer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais la donner à l'une de ses créatures. Iyadan billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, mais il n'a pas besoin de nous. Il nous dit dans son livre, Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imu. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Allah azza wa jalla nous mentionne cela. Ainsi, nous savons qu'Allah nous a créés, mais il n'a pas besoin de nous. Dans un autre verset, « Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyul hamid. » Ô vous les gens, vous êtes les besogneux auprès d'Allah. Vous êtes les pauvres chez Allah. Quant à Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Ainsi, Tu dois savoir, vu que tu es dans le besoin d'Allah Azza wa Jal, constamment et quotidiennement, tu as besoin d'Allah pour vivre, tu as besoin d'Allah pour la guider, tu as besoin d'Allah pour respirer, pour manger, pour te vêtir, tu as besoin d'Allah pour le pardon des péchés, tu as besoin d'Allah pour éviter l'enfer et entrer au paradis. Quel est donc le lien entre nous, les faibles serviteurs d'Allah, et Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes? Le lien, c'est l'adoration. Le lien, c'est l'ibadah. Et cette adoration, sachez que c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Un jour, alors que le prophète alayhi salatu wa salam était avec Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu en croupe derrière lui sur une monture, il lui a dit: Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala l'ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Le prophète عليه الصلاة والسلام interroge Mu'adh: Ô Mu'adh ibn Jabal, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il répondit: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète alayhi salat wa salam lui enseigna alors: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans jamais lui associer quoi que ce soit. C'est-à-dire sans jamais partager l'adoration entre Allah le créateur et les serviteurs ses créatures. Sans jamais donner un égal entre Allah et ses créatures. Ça, c'est le droit suprême d'Allah sur chacun d'entre nous. Adorer Allah sans jamais attribuer ce droit à une créature. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui a rien associé. Ainsi, l'adoration que tu accomplis pour Allah, ça n'est pas un besoin d'Allah, c'est un besoin de ta part. Tout être te veut pour lui. Sauf Allah, il te veut pour toi-même. Tout être, lorsqu'il te demande, lorsqu'il t'ordonne, c'est pour son utilité. Mais Allah, lorsqu'il t'a ordonné ici, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. « In ahsantum ahsantum li anfusikum » وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. Si vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Si vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'a pas besoin de nous, ni de notre adoration. Mais si on l'adore et on lui obéit, alors il ne nous châtiera pas. Il nous pardonnera et nous fera entrer dans son paradis. Voici l'utilité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit savoir que c'est l'esclave d'Allah. Il est soumis et assujetti à Allah. Il est dépendant d'Allah. Il doit l'aimer, le vénérer, le redouter. Il doit l'adorer, lui obéir, il doit l'invoquer et lui demander, il doit s'éloigner de sa désobéissance et le redouter, parce que c'est le serviteur d'Allah, et Allah Azza wa Jal est son maître. Si l'adoration est la sagesse de notre création, on doit savoir qu'est-ce que l'adoration. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala l'a défini dans l'introduction de son livre « Al-Ubudiyya » en disant: « Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-a'mali al-zahirati wal-batina. » L'adoration est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole, comme action, que ces actions soient apparentes ou cachées. Donc l'adoration, c'est tout ce qu'Allah a ordonné, tout ce qu'Allah aime et agrée. Mais cette adoration peut se composer de paroles, comme la lecture du Coran, comme le dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ça peut être des actions avec les membres, comme la prière, comme le pèlerinage. Ça peut être des actions avec le cœur, comme l'amour, comme la crainte, comme l'espoir, comme le tawakkul, comme le fait de compter sur Allah Azza wa Jal, d'avoir confiance en lui. Na'am. Donc l'adoration c'est vaste, c'est pas que la prière ou la zakat. L'adoration c'est très vaste. Na'am. Et cette adoration-là, tu dois être capable de la reconnaître pour pouvoir l'attribuer exclusivement à Allah. Comment est-ce qu'on reconnaît l'adoration? On reconnaît l'adoration si Allah l'ordonne. Wa aqimu as-salat. Et accomplissez la prière. Ici, c'est un ordre. Et Allah n'ordonne dans la religion que ce qu'il aime et agrée. C'est donc une adoration. La prière est une adoration. On reconnaît une adoration si c'est stipulé explicitement. Ad-du'a wa al-ibada. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit ad-du'a, c'est ça l'adoration. On reconnaît une adoration si Allah Azza wa Jal fait les éloges d'une personne suite à une action. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Certes, ils s'empressaient dans les bonnes œuvres et nous invoquaient avec désir et effroi et étaient envers nous pleins d'humilité. Allah fait leurs éloges. C'est que le désir, l'effroi, l'humilité face à Allah, tout cela est adoration. On reconnaît également une adoration si Allah Azza wa Jal rattache cette action à sa science de laquelle découle la récompense.
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ.
Vous ne dépensez pas une aumône, ni ne faites de serment, de vœux, sans qu'Allah le sache. Quelle est la sagesse d'avoir rattaché ces actions à la science d'Allah? C'est pour dire Allah le sait, il va vous récompenser. C'est donc une adoration. Voici quelques moyens de reconnaître l'adoration. Une fois que tu as reconnu cette adoration, tu te dois de l'attribuer à Allah exclusivement et ne jamais l'accorder à une créature d'Allah Azza wa Jalla. Sinon, ça serait le pire des péchés par lequel Allah fut désobéi, qu'on appelle ash-shirku billah, le polythéisme, l'association. L'adoration repose sur l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. C'est-à-dire que tout ce que tu fais comme adoration, tu le fais par amour pour Allah. Tu le fais par crainte d'Allah. Tu le fais parce que tu espères la récompense chez Allah. Et sachez que l'adoration n'est pas acceptée chez Allah sans deux conditions. La première est l'ikhlas, la sincérité. C'est-à-dire que tu fais et ton seul but est d'atteindre Allah, son agrément, d'entrer dans son paradis. Tu ne recherches pas les éloges des gens. Tu ne fais pas le pèlerinage pour qu'on t'appelle al-hajj. Non, tu fais le pèlerinage parce que tu veux te soumettre à Allah. Tu fais le pèlerinage parce que tu t'aimes à Allah. Tu fais le pèlerinage parce que tu as peur de désobéir à Allah. Tu fais le pèlerinage parce que tu veux rentrer au paradis d'Allah. Tu adores Allah avec amour, avec crainte, avec espoir. Et tu adores Allah Azza wa Jal. Sincèrement, tu ne recherches pas l'agrément des créatures à travers l'adoration. Tu ne fais pas l'adoration à la recherche de ce bas monde. Non. Tu fais l'adoration pour Allah, exclusivement et sincèrement. Il nous dit dans son livre, « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. » Et il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah, sincèrement d'un culte sincère. Sincèrement, exclusivement. C'est ça la sincérité. C'est que tu purifies ton cœur de la recherche d'un autre qu'Allah lorsque tu accomplis l'adoration. Ton seul but c'est Allah, tu recherches qu'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit innama al-a'malu bin-niyyat. Les œuvres ne valent que par les intentions. Il nous dit également, Allah dit ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka ma'i fi ghayri taraktuhu wa shirka. Taraktuhu wa shirka. Allah azza wa jalla nous dit dans le hadith atam divin, je suis celui qui se passe le plus de politisme ou d'association. Quiconque accomplit une œuvre en m'y assignant un associé, en me donnant un égal, un associé, je l'abandonne lui et son association. Allah ne l'accepte pas. Allah accepte que ce qui est fait pour lui sincèrement. Allah, c'est le maître et tu es le serviteur. Et le serviteur se doit de servir son maître comme le maître le veut. Et Allah Azza wa Jal, Al-Sayyid Al-Azi, a décidé que l'adoration devait lui être accordée exclusivement. Ça, c'est la première condition pour qu'Allah accepte de toi la sincérité. Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? La deuxième condition pour qu'Allah accepte ton adoration, c'est al-mutaba'a. C'est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne peux pas faire l'adoration comme tu le veux toi. Tu ne peux pas de ton propre chef te dire je vais prier de telle manière, ou je vais jeûner de telle manière, ou je vais faire le hajj de telle manière. Moi je vais faire le hajj dans le mois de Shawwal. L'autre il va dire moi je fais le hajj dans le mois de Dhul-Qi'dah. L'autre va dire dans le mois de Safar, et ainsi de suite. Non. Tu ne peux pas décider comment tu pries à l'heure à laquelle tu pries. Un va dire, ben moi maintenant, le dhuhr c'est une raka'a. L'autre il va dire, c'est 8 raka'at. Non. Allah Azza wa Jal nous a envoyé un message. Parce qu'on n'est pas capable de nous-mêmes de savoir ce qu'Allah aime, ce qu'il agrée, ce qu'il aborde et réprouve. Comment entrer au paradis et éviter l'enfer? Alors il nous a envoyé et choisi le meilleur des prophètes et des messagers. Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib al-Hashim al-Qurashi alayhi salatu wassalam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Et ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Abstenez-vous-en. Allah nous dit également ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de cela d'autres alliés. L'imam Ibn Jarir al-Tabari dit dans le tafsir de ce verset, c'est-à-dire suivez le Coran et suivez la Sunna. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, la femme la plus savante du monde, radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Quiconque fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre, son action sera rejetée. Allah, c'est-à-dire Allah ne l'accepte pas. Le but, c'est pas d'avoir le plus d'actions. Le but, c'est d'avoir les meilleures actions. Allah n'a pas dit qu'il a créé la nuit et le jour pour voir lequel d'entre nous va le plus agir. Non, il a dit le mieux agir. N'y a-t-il pas une grande différence entre le plus et le mieux? Allah Azza wa Jal veut la qualité de ton action, pas que la multitude d'actions. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Pour voir lequel d'entre vous va le mieux œuvrer. On n'a pas dit le plus. On n'a pas dit le plus. Le mieux œuvrer. C'est-à-dire avec sincérité et en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, celui qui rajoute dans la religion d'Allah, celui qui exagère dans la religion d'Allah, ou qui veut altérer la religion d'Allah et la corrompre, lui, il n'est pas sur la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est sur la voie de l'innovation, de la bid'a et de l'égarement. Sur la voie de la bid'a et de l'égarement. Et le prophète alayhi salatu wa salam a interdit de rajouter dans sa religion. Le jour de Arafa, c'était un vendredi. Le prophète alayhi salatu wa salam a reçu de grands versets de la part d'Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Accompli sur vous mon bienfait et agréé comme pour vous comme religion l'islam. L'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, le grand imam de Médi, a dit, des suites de ce verset, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion hier, c'est-à-dire à l'époque des compagnons, ne fera jamais partie de la religion aujourd'hui, c'est-à-dire après. Parce qu'Allah a complété la religion. Et vous savez tous que la chose qui est complète, si on rajoute, est-ce que ça l'améliore? Non, elle est complète. Prends un verre qui est plein et rajoute de l'eau. Ça ne te rajoutera rien. Au contraire, tu vas en déverser. La religion, elle est parfaite. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a transmis le message. Parfaitement. Il n'a pas trahi le message. Celui qui vient après lui et dit, moi, je rajoute dans la religion. Alors qu'Allah a dit qu'elle est parfaite. Ça veut dire qu'il accuse le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam d'avoir trahi le message et d'avoir caché une partie du message. Celui qui rajoute dans la religion d'Allah, c'est comme s'il disait, moi je suis mieux que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Parce qu'il vient, il rajoute des choses. Non. Le rôle du musulman, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. C'est pas de rajouter. Comme le disait Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Saoud et les compagnons, ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitu. Suivez et n'innovez pas. Ce que vous avez est suffisant. Est suffisant. Lorsque Abdullah ibn Abbas a enseigné les rites du prophète alayhi salatu wa salam du pèlerinage, certains ont dit, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit ceci. Il leur a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit comme cela. Alors ils lui ont répété, oui mais Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma ont dit ceci. Il leur a dit, il s'en faut de peu pour qu'Allah fasse tomber des pierres sur votre tête. Je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Subhanallah, et vous savez tous la valeur de Abu Bakr, le meilleur des hommes après les prophètes et messagers. Et la valeur de Omar, le deuxième meilleur des hommes après les prophètes et messagers. Pourtant, Abdullah ibn Abbas nous apprend le chemin à suivre. Personne ne passe avant le prophète alayhi salatu wa sallam. Aucune voie ne prévaut sur la voie du prophète alayhi salatu wa sallam. Tu dois faire comme le prophète alayhi salatu wa sallam a fait. Le jour de Eid al-Adha, un noble compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, avant la prière, a sacrifié sa bête. Il a sacrifié sa bête. Une fois que le prophète alayhi salatu wa sallam est sorti de sa moussalla, il lui a apporté de la viande cuite, prête à la consommation. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, ma'ada, qu'est-ce que cela? Il lui a dit, ya Rasulallah, je l'ai sacrifié, je l'ai préparé pour t'en donner. Yani, il a voulu précéder les autres et être le premier à honorer le prophète alayhi salatu wa sallam. Est-ce que ça, les frères, c'est une bonne intention ou c'est une mauvaise intention? Dites-moi. C'est une bonne intention. Vous savez ce que lui a répondu le prophète alayhi salatu wa sallam? Shatuka shatu lahm. Il lui a dit, ton mouton là, c'est que de la viande. T'as pas obtenu la récompense du sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de sacrifier avant la prière. Donc lui, il a eu la sincérité, la première condition. Mais il n'a pas eu le suivi du prophète, alayhi salatu wa sallam. Alors est-ce que son adoration a été validée quand même parce qu'il a une bonne intention? Ça suffit la bonne intention ou ça suffit pas? Ça suffit pas. Alors où sont ceux qui disent, oui mais moi j'ai une bonne intention? Hein? Il contredit la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Quand tu le conseilles, tu lui dis, suis le prophète sallam, délaisse ça, fais comme le prophète sallam. Tu dis, oui mais moi j'ai une bonne intention. Hein? Ça suffit pas la bonne intention. Un jour, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le grand lecteur du Qur'an, s'est rendu dans une mosquée, il a trouvé des gens en cercle. Avec eux, un homme qui avait des pierres. Et il leur disait, dites 100 fois Subhanallah. Et il compta avec les pierres. Quand il finissait, dites 100 fois Alhamdulillah. Il compta avec des pierres. Et ainsi de suite. Abu Moussa al-Ash'ari a regardé cela. Ça lui apparaît très étrange. Parce qu'il n'a pas connu cela des compagnons dans la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors il est parti voir qui? Abdullah ibn Mas'ud, le grand savant. Il lui a raconté ce qu'il a vu. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui a dit, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Il a dit, je n'ai rien dit avant de revenir à toi. Regardez la modestie des compagnons. Ne se précipitez pas pour parler. Hein? Alors Abdullah ibn Mas'ud s'est empressé de se rendre dans cette mosquée. Et il leur a dit, que faites-vous? La vaisselle du prophète alayhi salat wa salam n'est même pas encore cassée. Ses vêtements ne sont même pas encore usés. Ses compagnons sont encore vivants et répandus. Et vous commencez déjà à ajouter des choses. Savez-vous ce qu'ils lui ont répondu? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khayr. Ils ont dit à Abdullah ibn Mas'ud, nous n'avons voulu que le bien, la bonne intention. Quelle fut sa réponse? Wa kam min muridin lil khayr lam yusibhu. Mais combien de gens veulent le bien sans jamais l'atteindre? C'est-à-dire la bonne intention ne suffit pas. Ainsi on doit bien comprendre ces deux conditions ikhwat al-iman pour qu'Allah accepte ton adoration, la sincérité mais aussi le suivi du prophète alayhi salat wa sallam. Et cela on le retrouve où? Dans le premier pilier de l'islam. La ilaha illallah, c'est la sincérité. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le suivi. Et sur deux questions, tout le monde passera par là yawm al-qiyam. Tout le monde sera interrogé sur deux choses yawm al-qiyam. Mada kuntum ta'budu wa mada ajabtum al-mursalin. Qu'est-ce que vous adoriez dans ce bas monde? Et qu'avez-vous répondu au messager? Et dans ta tombe, on va te poser trois questions. La première, men rabbou, qui est ton Seigneur? La deuxième, ma dinou, quelle est ta religion? La troisième, wa mada taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. C'est-à-dire, qui est ton prophète? Que dites-vous de cet homme qui vous a été envoyé? Voici les trois fondements que nous n'avons pas le droit d'ignorer. Donc, on doit apprendre comment adorer Allah. Je ne dois pas dire, moi je prie depuis que j'ai 7 ans, moi je prie depuis que j'ai 10 ans, je vais apprendre maintenant la prière. Bien sûr, tu vas apprendre maintenant la prière. Tu vas apprendre les hadiths. Tu vas voir comment le prophète alayhi salatu wassalam se tenait debout, comment il mettait ses mains, ce qu'il disait. Est-ce qu'on va s'enorgueillir devant l'adoration d'Allah et son obéissance, devant l'étude de la science? Non. Man tawadha'a lillah, rafa'ahu Allah. Celui qui est humble pour Allah, Allah l'élève. Allah l'élève. Et Allah dit à son messager dans le Coran, « Wa qur rabbi zidni ilma » et dit, « Ô mon Seigneur, augmente ma science. » Qui après le prophète alayhi salatu wassalam va dire, « Moi, j'ai pas besoin de science. Moi, je n'ai pas besoin d'apprendre. » Il faut apprendre, même el wudu, les ablutions, la purification, la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Il faut apprendre chaque adoration. Il faut l'apprendre et demander aux gens de science, comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait ceci? Montre-moi. Comment il a fait cela? Montre-moi. Et tu dois suivre les preuves. C'est pas les gens. Tu demandes aux gens de science pour leur science, pas pour leur être. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, disait, de toute personne, on prend et on rejette. Sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Donc on doit apprendre ce qu'est l'adoration, sa définition, ses piliers. Et l'adoration, il y en a qui sont obligatoires, comme les cinq prières obligatoires, comme le jeûne de Ramadan, comme le tawhid, comme le hajj. Et il y en a qui sont mustahab, recommandés. Comme les prières recommandées. Comme le jeûne du jour de Arafat pour celui qui n'est pas au pèlerinage. Comme le jeûne de 6 jours de Shawwal après avoir jeûné Ramadan, comme le jeûne du jeudi, du lundi, ainsi de suite. Donc dans les adorations, les choses qui sont obligatoires, les choses qui sont recommandées. Et sache que ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qu'il a rendu obligatoire. Dans Hadith al-Wali, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dans le Hadith, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Donc en premier lieu, tu dois te concentrer sur les obligations. Sur les obligations. En commençant par la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, la connaissance du prophète, les cinq piliers de l'islam, la prière et ainsi de suite. Commence par les obligations. Certains posent des questions qui sont très loin d'eux. Ils posent des questions sur les gouverneurs. Et le gouverneur a fait ceci. Et le gouverneur a fait cela. Alors qu'il ne parfait pas les ablutions. Et si une impureté touche son bras, il ne sait pas comment se comporter. Et s'il se trompe dans la prière, il ne sait pas comment la corriger. Subhanallah. Et lorsqu'il récite le Fatiha, il ne comprend pas ce qu'il récite. Et lorsqu'il est incliné, debout, prosterné, il dit des mots, il ne sait pas c'est quoi le sens. Il est en train de s'occuper de ce qui se passe là-bas. Et il ne sait pas ce qu'il y a chez lui. Subhanallah. Il faut commencer du plus important à l'important. L'important, c'est ce dont tu as besoin pour adorer Allah au quotidien. Purification. Purification de la croyance. Ensuite, la purification du corps, des membres, les ablutions, la prière, les droits des parents, l'épouse, les enfants, le comportement, et ainsi de suite. Tu dois apprendre dans l'ordre. Tu dois t'occuper de ce qui t'incombe au quotidien. Et ça, c'est la science obligatoire. Le prophète a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ». L'étude de la science est une obligation qui incombe à chaque musulman. C'est-à-dire la science du quotidien. Cette adoration, ikhwat al-iman, son socle, son fondement, sa fondation, c'est la ilaha illallah. Sans la ilaha illallah, il n'y a pas d'adoration acceptée chez Allah. Kuffar Quraysh, est-ce qu'ils adoraient Allah ou ils n'adoraient pas Allah? Kuffar Quraysh, dites-moi. Est-ce qu'ils adoraient Allah ou bien ils adoraient pas Allah? Ils adoraient Allah. Ils faisaient même le pèlerinage. Mais dans le pèlerinage, nous, quand on se met en état d'ihram et qu'on va du miqat jusqu'à Mecca, et quand on sort le huitième jour de l'hôtel jusqu'à Mina, qu'est-ce qu'on dit? Et quand on sort de Mina à Arafat, qu'est-ce qu'on dit? Et de Arafat à Muzdalifa, qu'est-ce qu'on dit? Et de Muzdalifa jusqu'à la grande stèle, qu'est-ce qu'on dit? La talbiya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Que du tawhid, que de la sincérité. Mais Kuffar Quraysh ne disaient pas cela. Eux disaient لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Et là le prophète sallam leur disait ça suffit, n'ajoutez rien à cela. Mais eux ajoutaient إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Ils prononçaient le shirk. Il disait, sauf un associé, tu n'as pas d'associé, sauf un associé que tu possèdes lui et ce qu'il possède. C'est le shirk. Donc l'adoration, si elle ne repose pas sur le tawhid, elle n'est pas acceptée chez Allah. Il faut absolument qu'elle repose sur le tawhid, sur la sincérité, sur la ilaha illallah. La parole de la sincérité, la parole du monothéisme pur, la clé du paradis, le bouclier contre l'enfer. La ilaha illallah. Que signifie cette parole? La ilaha illallah signifie la ma'bouda bi haqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée sauf Allah. La ilaha illallah se compose de deux piliers. Il y a deux parties. La ilaha, c'est la première partie. Illallah, c'est la deuxième partie. La ilaha, c'est la négation. Illallah, c'est l'affirmation. La ilaha, c'est la négation générale, totale et absolue. Illallah, c'est l'affirmation spécifique, singulière et particulière. Quand tu dis la ilaha, tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Quand tu dis illallah, tu affirmes que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Il y a le vidage, l'épuration, la purification, ensuite il y a le remplissage et l'éducation. La ilaha, je rejette, je renie, je m'écrois à tout ce qui adore en dehors d'Allah. Illallah, j'affirme avec science et conviction que le seul qui mérite tous mes actes d'adoration, c'est Allah uniquement. C'est cela que signifie la ilaha illallah. Et ce sens-là, il est dans le Coran, il est partout dans le Coran. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est la ilaha illallah, c'est la sincérité. Iyyaka na'budu, c'est-à-dire on adore nul autre que toi, ya Allah. Quand tu lis dans le Coran, wa idh qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, je désavoue tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Ça, c'est la ilaha illallah. Lorsque tu lis dans le Coran, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, et adorez Allah et ne lui associez rien. C'est ça la ilaha illallah. Donc tu dois comprendre cette parole. Je dois la dire avec ses conditions, avec science, avec certitude, avec sincérité, avec véracité. Tu dois dire cette parole avec amour. Tu dois dire cette parole avec acceptation. Tu dois dire cette parole avec soumission. Comment se fait-il que certains, se réclamant de l'islam, ne comprennent pas cette parole alors que Kuffar Quraysh ont compris cette parole? Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit, dites la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hada la shay'un 'ujab. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une seule divinité unique? Ils avaient compris la ilaha illallah, que ça signifiait renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et affirmer que seul Allah méritait d'être adoré. C'est pour ça qu'ils ont refusé de prononcer cette parole, parce qu'ils voulaient pas être en contradiction avec leur égarement, leur mauvaise croyance. Naam. Et ça, c'est le message de tous les prophètes. Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé le premier message? Qui est le premier messager envoyé aux gens de la terre? Dites-moi. C'est qui le premier messager envoyé aux gens de la terre? Nuh alayhi salam. D'accord. Après quel grand événement il a été envoyé? Il y avait des péchés sur la terre ou il n'y avait pas des péchés? Il y avait des péchés avant Nuh ou pas? Oui. Kullu ibn Adam, khata, tout fils de Adam est pécheur. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Mais est-ce qu'on l'a envoyé depuis le début? Des messagers? Non. Pourtant, le fils de Adam n'a-t-il pas tué son frère? Pourtant, on n'a pas envoyé un messager après. Hein? Mais après un grand événement, on a envoyé le messager Nuh alayhi salam. Quel est cet événement-là? Dans le peuple envoyé à Nuh, auquel Nuh a été envoyé, pardon, il y avait 5 personnes très pieuses. C'était des exemples. Ils étaient très pieux. Ils adoraient Allah seul d'un culte sincère. Et dans un délai très rapproché, ils sont tous morts les uns après les autres. Alors les gens de ce peuple, tout naturellement, étaient grandement affectés et attristés. Et là, le shaitan leur est venu et leur a dit, représentez-les et mettez-les dans vos assises pour vous rappeler comment ils étaient pieux. Comment vous, comme ça, vous allez prendre exemple sur eux et vous allez mieux adorer Allah. Regardez là, shaitan, comment il voit loin. On pourrait se dire, mashallah, c'est une bonne idée, hein? Non. Le but du shaitan, vous verrez, c'est lequel. Le but du shaitan, vous verrez, c'est lequel. Ils ne les ont pas adorés avec Allah. Et lorsque la science a disparu et que cette génération est décédée, shaitan est revenu à leur descendance et leur a dit, vos ancêtres, leur demandez l'appui en dehors d'Allah. Ils les adoraient avec Allah. Et là, ils se sont mis à les adorer et les prendre en tant qu'intermédiaires dans l'adoration entre eux et Allah. Comme ceux qui vont près des morts, auprès des tombeaux, et ils disent c'est des walis, et c'est des gens pieux. Alors on va leur demander de demander pour nous à Allah. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et là, Allah Azza wa Jalla a envoyé Nuh alayhi salam pour revivifier le tawhid, pour apprendre et restaurer la ilaha illallah dans le cœur des serviteurs. Pour que la sincérité, le droit d'Allah soit maintenu sur la terre d'Allah Azza wa Jalla. Nuh alayhi salam est venu avec quel message? قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité digne d'être adoré en dehors de lui. Quand son peuple s'est détourné de la ilaha illallah et qu'ils ont refusé de le suivre, sauf une minorité, qu'a ordonné Allah Azza wa Jalla à Nuh? Il lui a ordonné de faire quoi? Hein? De construire quoi? L'arche. Et de faire entrer de chaque espèce un mâle et une femelle. Puis Allah Azza wa Jalla a ordonné à la pluie de tomber. Et il a exterminé tous ceux qui n'ont pas donné le droit à Allah, l'adoration. L'adoration. Tous ceux qui ont fait le shirk ont été anéantis. Même le fils de Nuh, alayhi salam. Oh mon fils, monte avec nous. Tu as dit, je vais monter sur le sommet de cette montagne, t'inquiète pas pour moi. Nuh lui dit, il n'y a pas de salut aujourd'hui. Si ce n'est en revenant vers Allah, il a péri avec ceux qui ont péri. Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas donné l'adoration exclusivement à Allah. Après cela, Allah Azza wa Jalla a envoyé un autre messager. Na'am. Il a envoyé Hud, il a envoyé Salih, il a envoyé Shu'aïb, et ainsi de suite. Et chacun venait à leur peuple, à son peuple, pour leur dire quoi? Ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghayru. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Et à chaque fois, une minorité les suivait, et la majorité ne le suivait pas. Alors Allah Azza wa Jalla faisait descendre son châtiment. Jusqu'au dernier peuple, jusqu'au peuple des Arabes, de la péninsule arabique, qui était plongé dans le polythéisme. Il y a eu un long moment entre Isa a.s. et le prophète Mohammed a.s. C'est pour ça qu'on appelle ces moments-là Al-Jahiliya, l'ère de l'ignorance. Ils adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. Autour de la Kaaba, il y avait plus de 360 fausses divinités, wal-iyadu billah. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu envoyer la lumière et mettre fin aux ténèbres, l'année de l'éléphant, il a fait naître son prophète et messager, le meilleur de la création, Mohammed ibn Abdullah, dans cette ville dans laquelle nous sommes, Mecca. La meilleure ville au monde. Puis il l'a fait grandir dans le bien, il l'a préservé. Et à ses 40 ans, il lui envoie l'angivé d'Alayhi Salam dans la grotte de Hira, qui lui donne la révélation. Plus tard, il lui revient et lui dit, Ya ayyuhal muddathir, umfa anzir, wa rabbaka fa kabbir, wa thiabaka fa tahir. Lève-toi et avertis. Appelle les gens tawhid. Purifie tes actes du polythéisme. Et proclame le tawhid d'Allah en manifestant sa grandeur. Et là, il a réuni sa famille. Et il leur a dit, dites la ilaha illallah, je suis un messager qui vous a été envoyé. Sourate Safa. Sourate Safa. Il y avait le shirk autour de la Kaaba. Et là, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, le prophète sallam, pendant 23 ans, sans relâche, il a appelé les gens au tawhid. Il leur a dit, délaissez le shirk. Il a protégé les délimitations du tawhid. Il a montré l'importance et la grandeur du tawhid. Il a expliqué les mérites du tawhid. Alhamdulillah. Petit à petit, les gens sont embrassés les siens. Petit à petit, les gens embrassés les siens. Et vous savez, lorsqu'il y aura, quand est-ce, on a dit le premier événement qui a envoyé, qui a causé l'envoi du messager, du premier messager, ça a été le shirk. Vous savez, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Lorsqu'il n'y aura plus le tawhid sur la terre d'Allah. Allah. Lorsqu'il n'y aura plus la ilaha illallah sur la terre d'Allah, alors cette vie n'aura plus aucune raison d'être. Allah Azza wa Jal va envoyer un vent. Le peu de croyants qui restera respirera ce vent-là et mourra. Les âmes sortiront. Et l'heure ne retentira que sur les pires des créatures, le moment où on ne dira plus la ilaha illallah. Le tawhid, c'est la cause de la création. L'adoration, c'est la cause de notre création. Et lorsqu'il n'y aura plus l'adoration avec le tawhid sur la terre d'Allah, il y aura la fin du monde. Ça nous montre quoi? L'importance de l'adoration et l'importance du tawhid. Une chose qui a autant de valeur, on ne doit pas l'étudier. On ne doit pas s'asseoir pour la comprendre. On ne doit pas l'appliquer. On ne doit pas l'enseigner aux femmes et aux enfants. On ne doit pas la propager. Ça, c'est la chose la plus importante, l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. C'est la chose la plus importante. Il n'y a pas plus important que cela. Adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère, avec sincérité. Et permettez-moi de vous mentionner quelques mérites d'adorer Allah seul d'un culte sincère, c'est-à-dire du tawhid. Le tawhid, c'est quoi? C'est adorer Allah seul d'un culte sincère. Le tawhid, c'est avoir comme conviction qu'Allah est unique dans sa perfection, le seul créateur, maître, administrateur, donc le seul qui mérite l'adoration. C'est ça le tawhid. Parmi les mérites du tawhid, le fait que c'est là le but pour lequel Allah nous a créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Parmi les buts du tawhid, c'est le droit d'Allah sur les serviteurs. On a mentionné le hadith de Mu'ad. Parmi le but du tawhid, le fait que soit la sagesse de l'envoi de tous les prophètes et tous les messagers. Allah nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيُجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Parmi les mérites du tawhid, le fait que soit la cause pour qu'Allah accepte ton acte d'adoration. Man amila 'amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktu wa shirka. Celui qui fait une action avec du shirk, je l'abandonne lui et son association. Parmi les mérites du tawhid, c'est que le Coran, c'est le livre du tawhid. Du début à la fin, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit tout le Coran mentionne le tawhid. Et un témoin du tawhid invite au tawhid. Parce que dans le Coran, soit il y a des informations, les noms, les attributs d'Allah. Ça, c'est la connaissance d'Allah, c'est le tawhid. De la connaissance, de l'information. Soit on te mentionne le prêche des prophètes et des messagers qui ont invité les peuples au tawhid et les ont avertis contre le polythéisme. Ça, c'est le tawhid dans l'adoration et la demande. Soit on t'informe de la récompense des gens du tawhid, le paradis, on te le décrit. Soit on t'informe de la punition des gens qui ont délaissé le tawhid, l'enfer, et on te le décrit. Donc tout le Coran, du début à la fin, traite du tawhid. Naam. Et pour celui qui veut retrouver cette parole dans ma Darij al-Salikin de manière détaillée. Parmi les mérites du tawhid, le fait que ce soit le premier ordre du Coran, dans Sourate al-Baqara, dès la deuxième page, ou la troisième, « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqum. » Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous, ainsi que ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Ajoutez à cela que c'est le premier interdit du Coran, ce qui contredit le tawhid. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez que c'est le seul créateur. C'est le seul maître. C'est le seul gérant des cieux et de la terre dans cet univers tabaraka wa ta'ala. Parmi les mérites du tawhid, c'est que c'est la plus grande des hasanat. Abu Dharr radiallahu anhu a dit, comme le rapporte l'imam Ahmed au prophète alayhi salatu wassalam, Amin al-hasanat ila ila illallah. Est-ce que font partie des bonnes, est-ce que là ila illallah fait partie des bonnes œuvres, des hasanat? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu, Ya afdalul hasanat. C'est la meilleure des bonnes œuvres. La ila illallah, c'est la meilleure des bonnes œuvres. Non. Parmi les mérites du tawhid, c'est que c'est la recommandation des prophètes. Am kuntum shuhada id hadara Ya'qub al-maut. Étiez-vous témoin lorsque la mort se présenta à Ya'qub? Il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Lorsqu'il dit à ses enfants, qu'allez-vous donc adorer après moi? Regardez le souci de Ya'qub alayhi salam. Regardez le père pieux et le prophète pieux. Il se soucie de l'adoration de ses enfants, de la croyance et du suivi de la religion de ses enfants. Il veut s'assurer qu'ils vont rester sur le tawhid, qu'ils vont rester sur la ilaha illallah. Ma ta'buduna min ba'di. Qu'allez-vous donc adorer après moi? Ils lui ont répondu, qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim. وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ils ont répondu, nous adorons ta divinité, la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, une seule divinité, et nous sommes musulmans. Naam. C'est également la recommandation de Nuh, alayhi salam, à ses enfants avant de mourir. Lorsque la mort se présenta à Nuh, alayhi salam, il a dit à ses enfants, je vous ordonne deux choses et je vous interdis deux choses. Quant à la première, je vous ordonne la ilaha illallah. Quant à la première, je vous ordonne la ilaha illallah. Car certes, si les cieux, si les sept cieux et les sept terres étaient posés sur un plateau de la, sur le plateau de la balance, et que la ilaha illallah était posée sur l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah l'emporterait. La ilaha illallah pèserait plus lourd. Il n'y a rien de plus lourd que la ilaha illallah. Allahu Akbar. Il n'y a rien de plus lourd que la ilaha illallah. Parmi les mérites de la ilaha illallah et du tawhid, le fait que ce soit une cause d'expiation des fautes, ça brûle les péchés, comme le feu brûle le papier. ça brûle les péchés, comme le feu brûle le bois et le papier. Dans le hadith de Anas, le dernier hadith de Arba'in al-Nawawiyya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, Yabna Adam, ô fils de Adam, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك قراب الأرض ثم لقيتني أو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Dans le hadith, ô fils de Adam, si tu venais à moi avec l'étendue de la terre en péché, en me rencontrant sans jamais avoir commis le shirk, le polythéisme, je viendrais à toi avec son équivalent en pardon. Allahu Akbar. Celui qui rencontre Allah avec le tawhid, avec la ilaha illallah, Allah lui pardonne. Allah lui pardonne. Allah Azza wa Jal a rendu, écoutez bien, le paradis haram aux gens du shirk, aux polythéistes. Et il a rendu l'enfer haram aux gens qui concrétisent le tawhid, la ilaha illallah. L'enfer pour les gens de la ilaha illallah, il est haram s'ils le concrétisent. Et s'ils ont des imperfections, il se peut qu'ils entrent en enfer un temps déterminé pour se purifier de leurs péchés. Mais aucune personne de la ilaha illallah s'éternise en enfer. Allah Azza wa Jal le sauve par sa miséricorde et il le mène au paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Quiconque rencontre Allah sans avoir commis le polythéisme entrera au paradis. Et dans l'autre hadith, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Certes, Allah a interdit au feu de l'enfer quiconque aura dit la ilaha illa Allah en recherchant à travers cela le visage d'Allah, c'est-à-dire avec sincérité. Non. Et lorsque les grands pécheurs, certains des grands pécheurs, traverseront le Sirat et ils tomberont du Sirat en enfer, les prophètes vont intercéder, les anges vont intercéder, les martyrs vont intercéder avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala va dire, allez en enfer, quiconque vous trouverez avec là, le poids d'un peu de foi, faites-le sortir. Faites-le sortir. Le poids d'une pièce, le poids d'un grain, le poids d'un grain de moutarde, le poids d'une petite fourmi, faites-le sortir de l'enfer. Les gens de la ilaha illallah, on les fera sortir de l'enfer. À la fin, Allah Azza wa Jal dira, Shafa'a an-nabiyyun. شفعت الملائكة ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. Les prophètes ont intercédé, les anges ont intercédé, les croyants ou bien autres ont intercédé, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah Azza wa Jal fera sortir quiconque est mort avec la ilaha illallah, il les fera sortir de l'enfer. Et vous connaissez probablement le hadith, hadith al-bitaqa, le hadith de l'homme à la carte. Le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma. Dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, un homme de la communauté viendra le jour de la résurrection, écoutez bien, avec 99 feuillets, remplis de péchés. Un seul de ces feuillets-là, chacun de ces feuillets-là, couvrira à portée de vue. Un seul, il y en a 99. Et chacun de ces 99 feuillets, Mad al-Basar, à portée de vue. Ça couvre l'horizon. tout cela rempli de péché. Ensuite, on va lui demander, est-ce que les scribes, les anges t'ont opprimé, quand ils ont noté tout ça, il va avoir peur, il va dire non au Seigneur. On va lui dire, est-ce que tu as été opprimé? Il va avoir peur, non au Seigneur. On va lui dire, amène ce que tu as pesé. C'est le jugement, la balance, les bonnes œuvres et les mauvaises. Alors on va mettre les 99 feuillets sur un plateau de la balance. Puis on va lui dire, ramène ce que tu as pesé, ramène tes bonnes actions. Et là on trouvera rien, si ce n'est une carte sur laquelle sera inscrit « La ilaha illallah ». Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et on va mettre cette carte sur l'autre plateau de la balance. Il lui dira, mais que pourrait bien faire cette carte devant les 99 feuilles? Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ وَثَقُلَتِ الْمِطَاقِ وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, lorsqu'on va mettre la carte sur le plateau, sur l'autre plateau de la balance, les 99 feuillets vont voltiger. Et la carte aura été plus lourde, et rien n'est plus lourd que le nom d'Allah. Rien ne fait le poids face au nom d'Allah. Regardez la bénédiction de la ilaha illallah. Est-ce que toute personne qui dit la ilaha illallah va gagner comme lui? Non. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala explique. Il dit, lui, quand il a dit la ilaha illallah, il avait la pureté de la sincérité, il avait l'espoir, il avait des actions du cœur que beaucoup n'ont pas. Alors ça a consumé ses péchés. Et ça a brûlé les péchés. Celui qui vient avec la ilaha illallah yawm al-qiyamah wallahi khawat al-iman, il aura la plus grande des hasanats. Le meilleur rempart et bouclier contre le feu de l'enfer. Et la clé du paradis. Mais toute clé a des dents, n'est-ce pas? Si tu viens avec une clé sans dents, on t'ouvrira pas la porte. Et si tu viens avec une clé avec ses dents, on t'ouvrira la porte. Ces dents-là, c'est les conditions de la ilaha illallah. Faut dire la ilaha illallah avec science, avec certitude, avec amour, avec véracité. Il faut dire la ilaha illallah avec acceptation. Il faut dire la ilaha illallah avec soumission. C'est pas tu dis la ilaha illallah après tu vas louer un autre qu'Allah, non. Tu dis pas la ilaha illallah après on te dit hayya ala salah, toi tu pries pas. Où il est la ilaha illallah? Où il est la ilaha illallah? Si tu dis la ilaha illallah et après tu te soumets pas. Tu dois dire la ilaha illallah après agir en fonction de la ilaha illallah. Tu délaisses le shirk et tu obéis à Allah. Tu délaisses le shirk, tu obéis au prophète alayhi salat wa salam. Toi, tu fais partie des gens de la ilaha illallah. Toi, incha'Allah ta'ala, tu fais partie des gens du tawhid. Plus étonnant que ça. Le prophète alayhi salat wa salam, on lui a présenté les communautés. Et il a vu un prophète qui était avec une dizaine de personnes. Un autre prophète avec une ou deux personnes. Un prophète, personne ne l'a suivi. Ensuite, il a vu une grosse communauté. Il a pensé que c'était la sienne, on lui a dit, non, ça c'est Moussa et sa communauté. Mais regarde, c'est-à-dire après ça, il a vu une communauté encore plus grande. Et on lui a dit, parmi eux, ta communauté, il y aura 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement, donc sans châtiment. Le prophète alayhi salatu wassalam est parti. Et les gens, toute la nuit, les sahaba ont discuté. Certains ont dit, peut-être que c'est les compagnons du prophète. D'autres ont dit, peut-être c'est ceux qui sont nés dans l'islam, ils n'ont jamais fait de shirk. Et chacun a émis un avis. Puis le prophète alayhi salatu wassalam est venu et leur a dit, « Humu alladhina la yastarqou, wa la yaktaou, wa la yatatayyarou, wa ala rabbim yatawakkalou. » Quatre conditions pour en faire partie. Il s'agit de ceux qui ne demandent pas la ruqya. Ils ne demandent pas la ruqya. Ils se font ruqya eux-mêmes. Ils font le wudu. Ils se récitent al-Fatiha. Ou al-Baqara. Ou ayatul kursi. Ou l'Allah wahad al-Falaq al-Nas. Ce qu'ils peuvent. Ils poussionnent. Ils se font ruqya eux-mêmes. Ou bien, on leur propose la ruqya. Ils acceptent. Mais eux, ils ne vont pas chercher la ruqya chez les gens. Première condition. Ou al-Yakta'oun. Al-Kay, c'est la cautérisation. Tu brûles le fer et tu l'appliques sur la peau pour le remettre. Eux, ils ne font pas ça. Wala yatatayyarun. At-tatayyur, c'est l'augure, la superstition. Hein? Ils n'ont pas cela. Quand ils voient un chat noir, ah, c'est le malheur, je me suis levé du pied. Tout chat, ils n'ont pas ça. Ah, je passe pas sous une échelle, ça porte malheur. Fout, c'est balivernes. Et c'est mensonge. Ils n'y croient pas, c'est du mensonge. C'est Allah qui donne le bien, c'est Allah qui le retire. C'est Allah qui élève, c'est Allah qui rabaisse. Non. Ils ne pratiquent pas l'augure et la superstition. Quatrièmement, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils placent entièrement leur confiance en Allah. Ils ne comptent que sur Allah. Et en réalité, la quatrième condition, elle réunit les trois premières. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas demander la ruqya chez les autres? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la cautérisation en pensant que ça fonctionne à tous les coups? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas l'augure? Parce qu'en réalité, leur cœur est tellement plein d'Allah, de son amour, ils comptent tellement sur Allah, qu'ils ne vont pas vers les créatures. C'est ça les gens qui ont concrétisé le tawhid. 70 000 entreront au paradis sans jugement. Un homme qui s'appelle Ukash ibn Mihsan s'est levé et a dit, oh, message d'Allah, invoque Allah afin que j'en fasse partie. Il lui a dit, tu en fais partie. Un deuxième s'est levé et a dit, ya Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. Il lui a dit, sabaraka Ukash. Il a dit, Ukash, t'as devancé. Hein? Donc, ceux qui ont concrétisé la ilaha illallah vont entrer au paradis sans jugement. La ilaha illallah, c'est une cause pour qu'Allah te délivre de tes difficultés, de tes peines, de tes soucis, de tes tristesses. Vous connaissez tous Yunus alayhi salam, le prophète d'Allah. Lorsqu'il a été jeté à la mer et qu'il a été avalé par la baleine, il s'est retrouvé dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Par quoi est-ce qu'il a invoqué Allah? Il a invoqué Allah par la ilaha illallah. Wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lah. Allah Azza wa Jal nous mentionne cette magnifique histoire. Et toutes les histoires du Coran le sont. Et lorsque l'homme au poisson s'en alla en colère, en ayant la certitude que nous n'allons pas l'abandonner ou le resserrer sur lui l'étau, il s'est retrouvé dans les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer, les ténèbres du ventre de la baleine. Et il a invoqué en disant, nulle divinité ne mérite véritablement l'adoration si ce n'est toi. Exempt sois-tu de tout défaut, je t'essère du nombre des injustes. Allah lui a répondu. Allah est la source. D'au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône, Allah tabaraka wa ta'ala a vu l'état de son serviteur, a entendu son invocation, et il l'a sauvé, il l'a ramené à la terre ferme. Fastajabna la, nous lui répondîmes. Naam. Est-ce que ça c'est que pour Yunus? Kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Si toi tu es un croyant, si toi tu as la ilaha illallah et que tu es dans la difficulté et que tu invoques Allah par le tawhid, toi aussi Allah va te sauver. Toi aussi Allah va te sauver. Qui n'a pas une épreuve dans sa vie? Qui n'a pas une affliction? Qui n'a pas un chagrin, un souci? Hein? Une tristesse. Voulez-vous le trésor qui dissipe la tristesse? C'est le tawhid, c'est la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit l'invocation de la difficulté, de l'affliction, de la tristesse consiste à dire La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshi al-azim. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ard wa rabbul arshi al-karim. Tu dis nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, l'immense Al-Halim, celui qui retarde l'échéance avec douceur, il laisse le serviteur, il ne le châtie pas directement. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah, le Seigneur du trône immense. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. Avec quoi tu dissipes la tristesse? La tristesse, c'est quoi? Le chagrin, c'est quoi? Naam. Et les soucis, ça vient de quoi? Ça vient du cœur qui est déstabilisé. Ça vient du cœur qui est déstabilisé. Quand tu es apaisé, tu as le repos du cœur, tu es heureux. Et lorsque tu es anxieux, chagriné, triste, le cœur est bouleversé. Il n'est plus tranquille. Alors le prophète alayhi salatu wa salam nous apprend comment apaiser ce cœur et le tranquilliser. En le remplissant de ce qu'il y a de plus immense, at-tawhid. Parce qu'il n'y a rien qui fait face à la ilaha illallah, au tawhid. Donc en répétant cette parole-là, tu vas irriguer ton corps, irriguer tes veines du tawhid. Et là, tu repartiras heureux, apaisé, tranquille. Na'am, comptant sur Allah Azza wa Jalla, ayant une bonne opinion de lui. Donc là, il est Allah, ça dissipe les soucis, ça dissipe les peines et l'affliction. Là, il est Allah, ça fait de toi le serviteur le plus fort. Regarde les polythéistes. Ils croisent un chat. Ah, je vais avoir un malheur. Ah, je vais avoir un malheur. Ils passent sous une échelle. Ah, je vais avoir un malheur. Ah, je vais. Ils sont faibles. Les gens du shirk sont faibles. Ils ont peur des créatures. Les gens du shirk travaillent pour les créatures. Ils espèrent le bien de la main de la créature. Ils redoutent la punition de la créature. Mais le musulman, lui, il a peur que d'Allah. Il aime Allah. Il espère la main dans la, ce qu'il y a dans la main d'Allah. Il redoute que le châtiment d'Allah. Avec la ilaha illallah, tu deviens le serviteur le plus fort. Tu deviens le serviteur le plus fort. Parce que tu reconnais que seul Allah Azza wa Jalla peut te donner le bien ou te punir. Que c'est le seul créateur, le seul pourvoyeur. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Alors ton cœur s'apaise, se tranquillise et tu comptes que sur lui. Subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il te voit et t'entend, connaît ta situation. Rien ne lui est caché, ni même la petite fourmi noire dans les cieux ou sur la terre. Il sait ce qu'il y a de toi de manière apparente et ce qu'il y a de toi qui est caché. Et même la trahison du regard, il la connaît. Celui qui sait cela, il va mentionner Allah Azza wa Jalla en disant le bien, en retenant sa langue du mal. Non. Avec le tawhid, tu vas avoir cette croyance authentique. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dans surat Al-An'am, et si Allah te touche d'un mal, nul ne peut le dissiper si ce n'est lui. Et s'il te touche d'un bien, il est parfaitement omnipotent. Avec la croyance, tu deviendras la personne la plus forte. Lorsque les polythéistes ont dit à Hud, le prophète Houd alayhi salam, innakulu illa taraka ba'du alihatina bisou. Ils ont dit, ce sont nos divinités qui t'ont jeté un sort, qui ont voulu ton mal. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il s'est tenu debout devant eux. Et il leur a dit, inni ushidullah. Je prends Allah à témoin. Washhadu, et soyez tous témoins. Anni bari'u mimma tushrikou. Je désavoue totalement tout ce que vous associez avec Allah. Minduni, fakiduni jami'an, thumma la tunzir. Complotez tous contre moi, sans me laisser de répit. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Il leur a dit, moi, j'ai placé entièrement ma confiance en Allah. Mon Seigneur est le vôtre. Il n'y a pas une bête sans qu'il ne la tienne par le toupet. Certes, mon Seigneur est sur un chemin droit. Et rappelez-vous l'histoire d'Ibrahim a.s. quand son peuple a comploté contre lui, qu'ils ont allumé un feu tellement ardent qu'ils n'ont pas pu le jeter avec leurs propres mains. Alors ils ont confectionné une catapulte. Ils l'ont catapulté dans le feu. Ibrahim a.s., le cœur plein de tawhid, a dit quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit quand ils l'ont jeté dans le feu? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Et quel bon garant. Allah Azza wa Jal a ordonné au feu de devenir fraîcheur salutaire. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah a ordonné au feu de devenir fraîcheur salutaire à Ibrahim. Il n'est pas mort. Et lorsque Kuffar Quraysh se sont réunis, et qu'ils ont pris leurs alliés, et qu'ils ont déclaré la guerre au prophète alayhi salatu wa salam, quand lui a annoncé cela, Inna an-nasa qad jama'u lakum farshawhum. Les gens se sont réunis contre vous, redoutez-les. Le prophète alayhi salat wa salam a dit hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Allah me suffit et quel bon garant. Celui qui a le tawhid devient l'homme le plus fort. Il ne craint plus personne. Il proclame le lycée d'Allah, il proclame sa religion. Il est fier de sa religion. Il est honoré de par cette religion. Il est honorable parce qu'il est dans la religion. Il ne craint le reproche de personne dans la pratique de sa religion. Il adore Allah Azza wa Jal, c'est son seul maître, la seule divinité. Et il ne craint dans cela le blâme de personne. Il n'a pas honte d'être musulman. Il n'a pas honte de poser son front par terre à 5 moments de la journée pour Allah Azza wa Jal. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte de laisser pousser sa barbe. Elle n'a pas honte de porter le hijab lorsqu'elle doit sortir. Elle n'a pas honte. Parce que j'obéis à mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le maître des cieux et de la terre. Celui qui m'a fait exister, vous tous. Pourquoi est-ce que j'aurais honte de me soumettre à lui? Alors que vous vous soumettez au shaitan, l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, sans avoir de honte ni de pudeur. Le musulman, il est fort. Il est fort de par son tawhid, il est fort parce qu'il connaît Allah, il est fort parce qu'il compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se réjouit, il est heureux d'être musulman, il est fier de cela. Avec la ilaha illallah, le jour dernier, tu recevras, inshallah, l'intercession et shafa'a du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a dit, celui qui sera le plus en droit de recevoir mon intercession sera celui qui aura dit, la ilaha illallah, sincèrement de son cœur. Sincèrement de son cœur. Les gens du tawhid auront la guidée et la sécurité. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Allah nous dit, ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par quelque iniquité, par quelque injustice, c'est-à-dire le shirk, ceux-là auront la sécurité. Et voici les bien guidés. C'est-à-dire la sécurité dans ce bas-monde, la sécurité dans leur tombe, la sécurité yawm al-qiyam. Et la guidée dans ce bas-monde, la guidée dans leur tombe, et la guidée yawm al-qiyam. La sécurité et la guider pour les adeptes du tawhid de la ilaha illallah. Avec la ilaha illallah et le tawhid, tu seras heureux. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque fait de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, c'est-à-dire en ayant le tawhid, en ayant la ilaha illallah, on lui fera vivre une bonne vie, il sera heureux. Il sera heureux. Ça, c'est dans ce bas-monde. Et dans le delà, Allah nous dit, et on le rétribuera selon les meilleurs de leurs œuvres. Dans ce bas-monde, t'es heureux, dans l'au-delà, t'as les grandes récompenses. La personne du tawhid est comblée. La personne du tawhid, elle vit dans le bonheur. Et écoutez la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il n'y a pas pour les cœurs une réjouissance, une jouissance, une délectation plus parfaite que d'avoir dans celui-ci l'amour d'Allah, de se rapprocher de lui. Et pour compléter cet amour-là, il faut se détourner de tout ce qui éloigne d'Allah. Et ça, c'est la réalité de la ilaha illallah. Ceux qui sont comme cela, inna la lansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Certes, nous allons secourir nos messagers et ceux qui ont eu la foi dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla secourt les gens du tawhid, il les élève, il leur donne une bonne vie, l'apaisement du cœur et de l'âme, le repos du cœur et de l'âme, la belle vie. Les gens du tawhid, les gens de la foi, les gens de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Pour cela, Allah a envoyé les messagers. Pour cela, il a révélé les livres. Pour cela, il y a le marché du paradis et de l'enfer. Sur la ilaha illallah, se sont divisés les gens de la croyance et les gens de la mécréance. Ibn Taymiyyah nous dit également, il n'y a pas pour les cœurs une joie et un délice plus complet que d'aimer Allah le Très-Haut, de se rapprocher de lui et d'aimer ce qu'il aime. Non. Donc l'adoration, c'est la sagesse pour laquelle Allah nous a créés. L'adoration, c'est le droit d'Allah Azza wa Jalla sur ses créatures. On doit l'étudier. On doit la parfaire, l'accomplir. On doit la transmettre, l'enseigner. Et surtout, on doit s'éloigner du polythéisme qui est le contraire du tawhid. C'est quoi le shirk? C'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui nous a créés. Le shirk, c'est d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Vous savez c'est quoi les conséquences du shirk? Le shirk, c'est le pire des péchés. Les compagnons ont dit au message d'Allah, quel est le pire des péchés? Il a dit, al-ishraku billah. C'est le fait de donner un associé à Allah. Dans un autre hadith, il a dit, c'est de donner l'adoration à notre qu'Allah alors que c'est lui qui t'a créé. De donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Éloignez-vous des sept péchés qui causent la destruction du serviteur. Ash-shirku billah. Il a commencé par le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui rencontre Allah avec le shirk, il entre en enfer. Le shirk fait rentrer en enfer. Le shirk annule les bonnes œuvres. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient fait du shirk, toutes leurs œuvres deviendraient vaines. Le shirk, c'est la pire des injustices, ikhwat al-iman. Allah dit dans le Coran, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Le shirk interdit l'entrée au paradis. إِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Quiconque commet le shirk, Allah lui interdit l'entrée au paradis. Sa destination est l'enfer et pour les injustes, nul secoureur. Le shirk est tellement grave qu'il fait sortir de l'islam. Il annule les bonnes œuvres. Et si la personne meurt sur le shirk, il s'éternise en enfer. Il s'éternise en enfer. Le paradis pour lui, il est haram. Le paradis pour lui est haram. C'est pour ça que les gens pieux ont peur du shirk. Avoir peur du shirk, c'est un signe de la foi. Ibrahim alayhi salam qui a cassé les idoles de sa propre main. Khalil al-Rahman avait peur du shirk. Dans le Coran, وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Allah, Ibrahim a invoqué Allah. Éloigne-moi, moi, ainsi que ma descendance, de l'adoration des idoles. Oh mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs. Quand il y a une maladie qui touche deux personnes, tu n'as pas peur. Quand elle touche dix personnes, tu n'as pas peur. Mais quand ça devient une épidémie, une endémie, quand ça se propage, les gens ont peur. Rappelez-vous du Covid. Eh bien, le shirk, il est répandu. On doit avoir peur du shirk. Le shirk a plusieurs aspects. Le shirk, c'est multiple. Il n'y a pas un seul genre de shirk. Il y en a beaucoup. Il y a du shirk apparent, il y a du shirk caché, il y a du shirk dans les intentions. Le shirk, c'est très dangereux. Le shirk, c'est à l'image d'une personne qui est au milieu de la mer, elle ne voit pas les côtes. Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Celui qui tombe dans le shirk, il est en danger. C'est le pire des péchés par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi. Le shirk ikhwat al-iman, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. C'est le seul péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc celui qui rencontre Allah yawm al-qiyam avec des péchés, quel que soit le nombre de péchés, quelle que soit la gravité des péchés, mais qu'il n'a pas fait de shirk, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, lui pardonne. Si Allah veut, il le met au paradis directement. Non, en le mettant au paradis directement. Si Allah veut, il le met en enfer un temps déterminé, puis il le sort, il le met au paradis. Par contre, celui qui rencontre Allah avec dans ses feuillets du shirk, le polythéisme, lui, il ne pourra pas rentrer au paradis. Aucun espoir pour qu'il rentre au paradis. Allah Azza wa Jal nous apprend dans le Coran qu'ils ne rentreront jamais au paradis tant que le chameau n'entrera pas dans le chat de l'aiguille. Tant que le chameau ne rentrera pas dans le chat de l'aiguille, ils ne pourront pas rentrer au paradis. Le paradis pour eux, il est haram. Naam. Le prophète alayhi salat wa salam a eu peur du shirk pour les compagnons. Il leur a dit, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Il a dit, ce que je redoute le plus pour vous, c'est le petit polythéisme. La personne se lève, elle accomplit la prière, et ensuite elle l'embellit parce qu'une personne la regarde. La regarde, c'est l'ostentation. Aussi, il a dit à Abou Bakr, qui est le meilleur de la communauté, le shirk dans la communauté est plus caché que les pas d'une petite fourmi. Alors, comment est-ce qu'on va s'en préserver? Le prophète, alayhi salat wa salam, leur a enseigné une invocation. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمْ. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi de commettre le polythéisme alors que je sais, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Allah Azza wa Jal veut qu'on lui demande, il aime qu'on l'invoque, et il se met en colère si on ne lui demande pas. Il faut donc lui demander de nous préserver du pire des péchés. On doit avoir peur de tomber dans le shirk. Et pour finir, une histoire qui nous montre le mérite du tawhid et la gravité du polythéisme. Et que si tu arrives chez Allah Azza wa Jal avec le shirk, personne ne pourra rien pour toi, même pas un des meilleurs prophètes et messagers. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous rapporte dans le hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, « Yalqa Ibrahim abahu azar yom al-qiyam » Ibrahim, alayhi salam, rencontrera son père Azar sur la place de la résurrection, le jour de la résurrection. Sur son visage, le visage du père d'Ibrahim, rabara, yani des défauts, de la poussière. Il lui dira, aide-moi. Ibrahim alayhi salam lui répondra, ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Il lui dira, el-yawm la'asik, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Et comme vous le savez, c'est trop tard. Alors Ibrahim alayhi salam invoquera Allah et dira, ô Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'humilier le jour de la résurrection, le jour des comptes.
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
Et ne m'humilie pas le jour des comptes. Alors Ibrahim alayhi salam invoquera Allah pour tenter d'être utile à son père. Tu m'as promis de ne pas m'humilier. Quelle humiliation plus grande que de voir son père éloigné, c'est-à-dire jeté en enfer. Savez-vous la réponse d'Allah Azza wa Jalla à son bien-aimé Al-Khalil, celui qu'il a aimé au plus haut point, avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Khalila ar-Rahman. La réponse d'Allah Azza wa Jalla à la demande d'Ibrahim, écoutez bien. « Inni harramtu al-jannata ala al-kafiri » J'ai interdit l'accès au paradis pour les mécréants. Pas de tawhid, pas respecter le droit d'Allah, pas donner l'adoration à Allah uniquement, pas de paradis. « Inni harramtu al-jannata ala al-kafiri » Puis on dira à Ibrahim alayhi salam de regarder à ses pieds. Et il verra « Ad-dhir ». « Ad-dhir » c'est la femelle ou le na'am du yen. « Na'am » Et le Adhir sera ensanglanté. Donc Allah Azza wa Jal va transformer le père d'Ibrahim alayhi salam en yen pour honorer son prophète Ibrahim alayhi salam. Mais ça ne lui servira pas d'échappatoire. Ne pourra pas éviter l'enfer. Et on va appeler les anges qui vont prendre le père d'Ibrahim par les pattes et le jeter en enfer. Ça c'est la finalité de qui? De celui qui n'a pas respecté le droit d'Allah. De celui qui n'a pas considéré l'adoration d'Allah, de celui qui n'a pas unifié Allah Azza wa Jal, de celui qui n'a pas étudié ce qu'était l'adoration, ne l'a pas restitué à son propriétaire et son maître Allah Azza wa Jal. Donc mes très chers frères, les invités du tout miséricordieux, chers pèlerins, considérez l'adoration. Et rappelez-vous à tout jamais que c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et ne donnez jamais cette adoration en tout cas Allah Azza wa Jal. Préservez-la, concrétisez le tawhid. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous joigne et vous joigne au nombre de ceux qui entreront au paradis sans jugement. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم عافنا من الشرك اللهم عافنا من الشرك اللهم عافنا من الشرك اللهم اجعلنا من أهل التوحيد اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم وفقنا لأداء حج مبرور اللهم وفقنا لأداء حج مبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة اللهم أعنا اللهم وفقنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين